Il est présentement 11h07 minutes. Vous écoutez le www.rocket.com. Vous êtes sur la station numéro 1 canadienne sur la planète Terre, rocket.com. On parle ici à Gérard Prince. J'ai été honnête, monsieur Prince. De mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris votre CV, j'ai pris votre curriculum vitae et je l'ai mis sur la page du www.rocket.com, histoire de dire qui vous étiez exactement et ce que peut-être vous aviez à nous raconter de bon ce matin. Pour nous, de notre côté, c'est ce matin et pour vous, c'est l'après-midi, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, oui. C'est même la soirée.
tout à fait aussi, exactement. Alors, première des choses, pour être aimable, comment allez-vous? J'espère que la forme va bien.
Ben écoutez, je vais très bien et puis j'en profite pour souhaiter à tous les auditeurs de votre station et mes meilleurs voeux de bonheur et de santé pour 2007.
Même chose et aussi, entre français, il faut s'appuyer, il faut se tenir les coudes serrés, quoi.
Tout à fait.
Alors, par quoi pouvons-nous commencer? Je vous laisse la parole, Monsieur Pince. Je crois que vous avez l'habitude, on a aussi l'habitude d'aller vous voir sur le Free World Academy. Corrigez-moi le tir si je l'ai bien prononcé.
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, sur Free World Academy. Oui.
Tout à fait. Alors, dites-moi, pouvons-nous commencer par la présidentielle, avril 2007? Qui va gagner, je sais pas, et qui a le meilleur programme pour sauver la France, je sais pas. Dites-nous.
Eh bien, écoutez, je crois que malheureusement, ces deux candidats ont des vêtements un peu trop grands pour eux. Ils flottent dans leurs vêtements, je veux dire par là qu'ils n'ont pas ni l'un ni l'autre. Je parle des deux principaux, Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy. Ils n'ont pas l'envergure pour être président de la République. Et ça se voit bien à la fois au niveau de leur programme, qui repose essentiellement pour le moment sur de la communication, sur des formules plus ou moins creuses, mais il n'y a rien dans leur programme qui réponde à l'urgence et aux problèmes fondamentaux que rencontre la France aujourd'hui. Ça, c'est un sentiment quand même qui sera de plus en plus patent au fur et à mesure que la campagne avancera, à savoir que nous n'avons pas des candidats qui sont à la hauteur de la situation et même du poste.
Okay.
Nous avons eu dans le passé des bons présidents, et je ne fais pas du tout de politique politicienne. Je pense que nous avons eu des présidents comme Pompidou, comme Valéry Giscard d'Estaing, sans même parler de Charles de Gaulle, comme François Mitterrand aussi d'ailleurs,
okay,
qui étaient des hommes d'envergure. Mais là, véritablement, nous avons des gens qui sont lancés uniquement comme des gadgets par la noblesse au pouvoir et qui vont faire exactement la même politique que celle qui a été menée jusqu'à présent. Il n'y a pas vraiment de différence, d'ailleurs, entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Ce sont tous les deux les candidats du système. Ce sont tous les deux les candidats de la noblesse au pouvoir et ce sont comme deux jokers qui sont présentés alternativement pour essayer de séduire les Français, je dirais plutôt, en vérité, pour les tromper une nouvelle fois.
Ok, Monsieur Pince, dites-moi, pour le ou la future première ministre de la France, dites-nous quels sont les réels problèmes auxquels il devrait s'attaquer plus exactement.
Écoutez, les principaux problèmes sont liés d'une part à l'immigration et à sa conséquence l'islamisation qui pèse sur l'ensemble de la société et qui crée un climat général d'inquiétude et d'insécurité. Cela tient aussi aux déséquilibres fondamentaux de notre économie qui sont d'ailleurs en partie la conséquence de l'immigration. C'est-à-dire que dans la mesure où chaque année on a 350 à 500 000 personnes qui viennent en France avec de très faibles moyens, cela se traduit toujours par davantage de dépenses sociales, davantage de dépenses publiques, et donc par des budgets, un état-providence, on peut dire, qui pèse très lourdement sur la position économique de la France, sur la compétitivité des entreprises, sur sa place dans la mondialisation, et ça se traduit tout naturellement par du chômage, des délocalisations, par un sentiment d'un peu de désespérance qui s'empare de tous les milieux français, et en particulier les classes populaires, mais aussi les classes moyennes qui sont laminées au fur et à mesure. Donc les grands problèmes sont liés à la réforme de l'État-providence, réforme qui ne peut se faire que s'il y a en corrélation une nouvelle politique en matière d'immigration et donc aussi en matière de laïcité, de défense de la laïcité par rapport aux empiètements de l'islam.
Parce que, Monsieur Pince, nous sommes au Canada, d'accord, et on a bien sûr de grands médias, parce que je dois vous l'avouer bien humblement, Rockick.com est loin d'être un média qui est public. On est davantage un média qui est alternatif, d'accord? Ce qui veut dire carrément que, bon, disons, on n'est pas subventionné par quiconque, OK? Il n'y a personne qui nous subventionne. L'État ne nous subventionne pas du tout. Bien sûr, si on était subventionné par l'État, je ferais à peine le tiers de ce que je peux dire en ondes. On a une certaine liberté d'expression, on a davantage le droit de... il y a quand même des limites, je vous dirais, mais on a une certaine facilité à pouvoir s'exprimer ici sur le www.rockick.com. Mais par contre, les grands médias de ce monde, tels que Radio-Canada, filtrent l'information, mais à 100%, Monsieur Pince. Et j'aimerais que vous nous expliquiez carrément le fameux problème de l'immigration que vous subissez depuis un certain nombre d'années.
Nous avons le même problème en France, c'est-à-dire que les grands médias, les grands médias aussi bien de la presse que de la télévision, et quel que soit d'ailleurs leur bord politique, qu'il s'agisse de la gauche ou de la droite, c'est exactement la même chose. Il y a un tabou général sur ce problème de l'immigration et de ses conséquences. Et c'est un phénomène qui existe quand même depuis de nombreuses années, bien sûr, mais qui s'est accéléré d'une manière assez considérable, disons, au cours des dernières années. On en est maintenant à 350 000 à 500 000 personnes qui entrent chaque année. Et ces chiffres, non seulement il est très difficile de les trouver, mais ils sont sans cesse truqués, si je puis dire, par les instituts officiels, par les médias qui reprennent des chiffres truqués. Par exemple, l'exemple du trucage très simple.
Allez-y.
On nous dit, nous avons que 100 à 150 000 entrées par an. Pourquoi ? Parce qu'on compte dans ces entrées les entrées permanentes. Vous voyez, on joue sur les mots. Et dans ces entrées permanentes, on ne compte pas les demandeurs de droit d'asile qui vont rester sur le territoire français et qui sont considérés comme n'ayant pas une vocation permanente à rester. On ne compte pas non plus les étudiants qui viennent d'Afrique ou du Maghreb et qui ont pourtant la possibilité, à l'issue de leurs études, de rester en France avec la capacité de chercher du travail. On ne compte pas les travailleurs saisonniers qui, une fois qu'ils sont rentrés, se perdent dans la nature, etc. Et si bien qu'on en arrive à, pendant longtemps, on a présenté aux Français des chiffres tronqués. Maintenant, la vérité apparaît parce qu'elle est visible. On s'en aperçoit bien dans toutes les grandes villes où on a le sentiment d'un véritable changement de population.
Oui, mais
à cela s'ajoute aussi le fait que ces migrants qui sont rentrés depuis très longtemps ont eu à leur tour des enfants et que quand on nous annonce, comme c'est le cas encore aujourd'hui, que la France a une natalité exceptionnelle, nous aurions une natalité avec un taux de 2 enfants par femme alors qu'il est de 1,4 en Italie, de 1,3 en Allemagne, de 1,5 en Espagne, des pays voisins. Donc, si ce qu'il y a une telle taux de natalité, c'est parce que c'est la forte natalité des migrants qui, évidemment, assure la différence et crée cette sorte d'embellie démographique dont on nous parle dans les médias. Donc, c'est un phénomène qui est assez ancien, qui s'est accéléré au cours des 10 dernières années, en particulier avec les phénomènes de demandeurs d'asile, etc., et qui n'est pas réellement pris en compte, ni même au niveau des campagnes présidentielles. Si vous voulez, au niveau de la campagne présidentielle actuelle, le débat sur l'immigration ou le débat sur l'islamisation sont complètement occultés. Ce sont des sujets dont on ne veut pas parler, et je dirais même dont on ne doit pas parler.
OK, ça tombe très bien, Monsieur Pince, parce que je suis devant cet article, justement, qui a dû être filtré, comme parmi tant d'autres, par nos grands médias qui nous donnent la stricte vérité et objective en plus. C'est que la France est bonne championne européenne en termes de fécondité par femme, ce qui donne, comme vous m'avez dit, 2 enfants, plus exactement. Alors,
c'est ça, mais c'est absolument ridicule, parce que simplement, ça ne tient pas compte justement de l'apport des descendants de l'immigration, qui est tout à fait considérable, et on le voit bien quand on se promène dans des villes comme Paris, on voit bien que toutes les femmes qui ont des poussettes avec deux, trois enfants, etc., ce sont le plus souvent des femmes qui viennent de récemment, d'ailleurs, des pays d'Afrique noire et du Maghreb, puisque c'est à 80% notre immigration, des femmes qui souvent d'ailleurs portent le voile, donc il n'y a pas d'ambiguïté, et c'est exactement donc le type d'information que vous avez aussi, que vous retrouvez dans vos grands médias, c'est ce que nous avons aussi, ce sont des informations qui sont truquées, qui cachent la vérité réelle, c'est-à-dire le phénomène de remplacement de population qui se réalise progressivement, notamment dans de grandes agglomérations comme la région parisienne, comme Paris, comme l'Alsace, comme Marseille, etc.
Il est clair, Monsieur Pince, que en plus les femmes que vous m'avez parlé, elles travaillent toutes, elles ont un salaire de je sais pas combien par année, par exemple, on pourrait dire 40 000.
Non, beaucoup de femmes en fait ne travaillent pas.
Ah.
Vous savez, il faut savoir, et ça, ce sont des statistiques officielles qu'on doit rechercher soi-même en dépouillant des tableaux, etc. Mais vous savez que dans la population qui est immigrée ou des descendants d'immigrés de première génération, sur 10 personnes en âge de travailler, je parle bien des gens en âge de travailler, je ne parle pas des enfants ou de ceux qui ont plus de 65 ans.
Certainement.
Sur 10 personnes qui sont en âge de travailler, 4 seulement travaillent.
Hein?
4 seulement sur 10. Donc ça veut dire que les autres vivent essentiellement avec le RMI, avec les allocations pour femmes isolées, etc. Il faut savoir que parmi les descendants d'immigrés, c'est-à-dire des gens qui sont nés en France, les descendants d'immigrés dans ces banlieues, en particulier celles-ci qui se sont enflammées, on atteint des taux de chômage qui sont de l'ordre de 45 à 50%.
Mais c'était tous des Blancs qui avaient mis à feu et à sac cette banlieue-là, n'est-ce pas?
Absolument, absolument. C'était effectivement, c'est dans ces banlieues qu'il y a eu les émeutes de novembre 2005, qui ont eu, je crois, un assez large retentissement international.
C'est ça, mais comme je vous dis, Monsieur Pince, c'était juste des gens de couleur blanche. De couleur blanche. Ça se dit pas, mais c'était des gens blancs qui ont fait ça probablement. C'est que des Blancs.
Ben, ça veut dire mais je veux dire, c'était pour l'essentiel, et on pourrait même dire à 100%, des gens de ce qu'on appelle ici les minorités visibles, c'est-à-dire des gens venant du Maghreb ou bien d'Afrique noire.
Voilà, et je veux pas non plus essayer de faire de la discrimination ici, aujourd'hui, Monsieur Pince, mais j'aime bien qu'on appelle les pommes des pommes, des oranges des oranges, vous voyez un peu ce que je veux
bien
dire.
Bien sûr.
C'est simplement ça, et lorsqu'on fait un on remarque, que lorsque ça s'est produit, ces événements-là, malheureusement, eh bien, disons que le blanc n'était pas très, très, enfin, présent.
Non, oui, c'est évident. Enfin, parlons de Français de souche, il est bien clair qu'il n'y avait pas parmi ces émeutiers de Français de souche. C'est évident. Ou alors, il y en avait peut-être un ou deux très peu entraînés. Mais enfin, dans l'ensemble, c'était effectivement des phénomènes conséquent à l'immigration ancienne ou récente.
On nous pose des questions, Monsieur Pince, du côté de live@rocky.com, les auditeurs, bien sûr. Je vous envoie celle-ci à l'instant. Est-ce que cela n'est pas dû à la politique menée depuis 35 ans par des présidents qu'ils jugeaient d'envergure? De Gaulle, par exemple, et sa politique arabe, Giscard et le regroupement familial de 75, etc.?
Je crois qu'il y a eu effectivement, mais ça a été décrit longuement, en particulier par Battier, il y a eu, à partir des années 70, des accords entre les pays européens, d'ailleurs pas seulement la France, mais entre les pays européens et les pays arabes, pour faciliter l'immigration et l'installation des populations arabes et musulmanes en Europe. Ça a été montré en particulier par Battier dans son ouvrage Eurabia. Le phénomène important, ça a été surtout l'affaire du regroupement familial, qui a ouvert très largement de nouvelles vannes, disons, à l'immigration. Et puis, il y a, bon, effectivement, plus que la politique arabe, je dirais, il y a l'imprégnation, et ça c'est un phénomène que vous n'avez pas au Canada.
Pas encore.
Vous n'avez pas aux États-Unis. Il y a le fait que dans la population française, je parle à ce moment-là de la population française d'origine, vous avez une forte composante d'extrême gauche ou de gauche, anciennement communiste, qui a toujours été favorable à l'immigration, tout comme elle était hier favorable à l'Union soviétique, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à la différence de la société canadienne ou de la société américaine, nous avons en France une importante minorité, qui peut représenter, mettons, 20% de la population, qui a des idées hostiles, disons, à notre société, à notre civilisation. Alors autrefois, avant la chute du mur de Berlin, c'était le Parti communiste. Mais ensuite, bon, comme il y a eu le goulag et tout cela, ces communistes se sont répartis entre l'extrême gauche de Besancenot, d'Arlette Léguier, se sont répartis dans les Verts, dans les altermondialistes, dans une partie des socialistes. Et toute cette opinion publique forme un lobby très important en faveur de l'immigration. Dès qu'il y a, par exemple, des expulsions parfaitement justifiées, par ailleurs, eh bien, vous avez des associations de ce type qui s'opposent aux expulsions par des voies de fait, qui empêchent les avions de partir, et autres. Donc, vous avez là un phénomène qui est propre, je pense, à la France et qu'on ne doit pas retrouver au Canada, disons, de toute une partie de la société qui a des racines d'extrême gauche et qui déteste notre société, qui déteste notre mode de vie et qui de tout temps a été, au fond, hostile à notre pays, puisque auparavant ils étaient avec l'Union soviétique. Alors maintenant, il n'y a plus l'Union soviétique, et ben maintenant ils sont avec l'islam radical. C'est un peu comme ça que on peut les analyser.
Comment vous sentez-vous, Monsieur Pince, de ne plus être réellement chez vous? Comment vous vous sentez exactement?
Ben écoutez, c'est un sentiment de malaise qui est grandissant, parce que il y a des gens, bon, qui sont plus ou moins favorisés comme moi, qui ne sont pas directement dans les quartiers ou dans les zones sensibles. Okay. Mais vous avez beaucoup de Français qui habitent dans Seine-Saint-Denis ou dans des quartiers, comme on dit, des quartiers sensibles ou des quartiers à risque, et qui n'ont qu'une idée, c'est d'en partir le plus vite possible, parce qu'ils ne peuvent pas scolariser leurs enfants, ou ils les scolarisent dans des écoles où leurs enfants sont soumis à des violences, à des brutalités, etc. Parce que, en dehors, si vous voulez, du phénomène migratoire, ce qu'on assiste, ce qu'on perçoit bien en ce moment en France, c'est la montée d'un racisme anti-blanc qui se diffuse très vite et qui se manifeste au jour le jour par des violences.
Monsieur Pince, là, un racisme anti-blanc, mais arrêtez, c'est pourtant le blanc qui est raciste, ce n'est pas les ethnies, voyons.
Ah, ben bien sûr, oui, je sais bien, nous sommes coupables de tous les maux du monde, de l'esclavage, de la colonisation,
et
de
oui,
tout,
nous sommes coupables
de tout, et voilà, c'est ainsi, et bien sûr, on nous accuse de tous les maux. Mais enfin, objectivement, on assiste bien quand même au niveau de ces populations, et même par-delà le phénomène islamique. On assiste à une sorte de racisme anti-blanc qui se manifeste au quotidien et qui rend la vie des Français qui habitent dans ces quartiers absolument impossible.
Il n'y a pas un seul politicien qui fait l'effort de prendre, excusez-moi, mais la batte de baseball et dire non, un instant, moi je vais aller au marbre et je vais cogner un coup de circuit pour dire effectivement, en France, ça va pas là.
Ben écoutez, il y a un candidat qui effectivement fait campagne sur ce thème. C'est Monsieur De Villiers.
Ah,
mais
okay.
Il ne représente dans les sondages à l'heure actuelle que 3% des intentions de vote.
Ah, d'accord.
L'autre candidat beaucoup plus important, qu'on peut évaluer dans les sondages, évidemment, à peut-être 15, 18%, 20%, c'est très difficile dans son cas, d'ailleurs. C'est le fameux Monsieur Le Pen.
Ah, Le Pen. Okay.
Mais lui-même a une position extrêmement ambiguë. N'oubliez pas qu'il a pris et qu'il prend position en faveur de l'Iran, qu'il a soutenu constamment Saddam Hussein.
Très vrai, très,
qu'il
très
a
vrai.
Traité le président Bush de criminel de guerre, et que par conséquent, il ne tient absolument aucun discours de fond contre l'islamisation, et finalement, il a un discours vis-à-vis de l'immigration qui est devenu, au fil du temps, de plus en plus ambigu. Si bien qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi ce phénomène. Je vous ai parlé tout à l'heure du communisme et de ses héritiers.
Justement.
Nous avons aussi en France une extrême droite qui a une pratique pro-arabe et anti-américaine, et qui est motivée essentiellement, elle aussi, par l'anti-américanisme. C'est-à-dire que nous avons effectivement une situation assez particulière par rapport à d'autres pays, et qui facilite, on peut dire, facilite grandement la pénétration de l'islam en France par rapport à ce qu'elle pourrait être dans d'autres pays.
Là, excusez-moi le mot, mais j'ai l'impression que la France est dans la merde jusqu'au cou, là, et qu'il n'y a aucune solution probable. Je me trompe? C'est possible? Je ne sais pas.
La seule solution à laquelle nous travaillons avec la Révolution bleue, c'est que les Français finalement se réveillent, découvrent la vérité, et qu'ils se décident à se bouger, à dire stop à tout cela. Mais ça suppose des mouvements de masse en profondeur,
oui,
qui ne sont pas encore, il faut le dire, ne sont pas encore assurés. Encore que, avec le résultat des élections présidentielles qui entraîneront de profondes désillusions, il est possible à ce moment-là qu'un tel sursaut se produise et que les gens, considérant que le système est complètement bloqué et qu'ils sont méprisés, en viennent effectivement à faire la révolution pour de bon.
Est-ce que tout le monde en France, Monsieur Pince, est-ce que tout le monde en France à la même signification du mot racisme, pour revenir encore sur ce sujet?
Écoutez, le mot racisme maintenant est employé dans tous les sens du terme.
D'accord.
Au point que ça ne veut absolument plus rien dire. Par exemple, distribuer de la soupe aux cochons à des SDF, à des indigents, c'est considéré à Paris comme une forme de racisme, et ça a même été interdit par le préfet de police. Bon. On pourrait dire qu'il y avait une discrimination religieuse.
Oui.
Mais la religion, c'est pas la race.
Non.
Ça veut dire que le mot raciste est utilisé comme autrefois on utilisait le mot bourgeois. N'est-ce pas, vous vous souvenez de l'expression de Sartre, tous les bourgeois sont des salauds. Ben maintenant, on n'emploie plus le mot bourgeois, mais on emploie le mot raciste. Alors pratiquement, dans le langage de certains intellectuels, politiciens d'extrême gauche ou autres, bien tous les Français de souche sont des racistes. C'est devenu quelque chose qui a été complètement banalisé.
Oui, je me souviens pas exactement, mais il y avait une enseignante aux États-Unis qui s'était fait remettre par une femme noire un travail pour l'école, et bref, elle a eu une mauvaise note, cette femme noire, et cette femme noire s'est levée, Monsieur Pince, est allée voir la professeure en question de mathématiques, c'est bien ça, de français, pardon, et le professeur, l'enseignante, lui a répondu ceci: ne venez plus jamais me voir pour et utiliser votre couleur pour faire un travail médiocre. Et j'ai l'impression que ça arrive souvent quand, par exemple, je sais pas, moi, ça fait pas leur affaire, c'est assez facile d'arriver à dire « Non, mais c'est du raciste, là, ici, là. Attention, là. Vous agissez à titre d'individu raciste envers moi parce que j'ai une mauvaise note, je sais pas, vous voulez pas respecter mes principes religieux, etc. »
C'est ça, c'est exactement ce que vous décrivez. Par exemple, des élèves qui ont des mauvaises notes vont dire que leur professeur est raciste.
Voilà.
Parce qu'on leur a mis une mauvaise note, mais ça c'est fréquent. Ça c'est tous les jours au niveau de l'éducation ensemble. Ça c'est tout à fait fréquent. C'est devenu quelque chose de général, mais enfin ça prouve un climat extrêmement malsain.
J'ai des questions ici via le live @rocket.com. Vous avez encore un peu de temps à nous accorder, Monsieur Pince?
Oui, bien sûr.
C'est très, très, très intéressant. On nous demande ici, parce que le problème profond de Le Pen, ce sont les Juifs. La France a une grande tradition d'antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ces propos?
Je ne pense pas qu'il y ait de l'antisémitisme en France, en dehors de l'antisémitisme bien réel et virulent qui est véhiculé par les différents sites de l'islam radical ou par les différentes mouvances de l'islam radical qui existe en France, en particulier les mouvances salafistes ou les discours tenus dans certaines mosquées, etc. Là, il y a un antisémitisme nouveau qui vient de la banlieue et qui fait que les personnes de confession israélite sont souvent dans des situations très difficiles et sont elles aussi obligées de quitter ces banlieues pour ne pas être tout le temps exposées à des incivilités ou à des violences. Alors au niveau de l'extrême droite, en revanche, il est exact qu'il y a toujours un petit noyau, mais alors vraiment un noyau infime, de gens qui se prétendent antisionistes, pro-arabes, et qui en fait, par ces vocables, dissimulent un antisémitisme traditionnel. C'est ce qui vous explique d'ailleurs justement cette existence d'une extrême droite pro-arabe, qui est pro-arabe au fond pour embêter les personnes de confession israélite ou qui est anti-américaine. C'est un phénomène qui existe, oui.
Juste un tout petit peu plus tôt, vous avez parlé de révolution bleue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît?
Ben écoutez, la révolution bleue, c'est un mouvement informel qui a été lancé en novembre 2005, en particulier par Claude Reichmann et par d'autres, moi, etc., pour prendre acte du fait que le pays était complètement bloqué, que les réformes étaient impossibles, qu'il fallait à tout prix mettre fin à la chienlit, à l'insécurité, à l'incompétence des politiciens, à l'excès de charges qui ruinent complètement l'économie, et que dans ces conditions, la seule solution, ce serait d'engager une véritable révolution en s'appuyant, comme ça s'est passé en Ukraine ou dans d'autres pays, en s'appuyant sur des manifestations dans la rue et sur une pression de plus en plus accrue sur le pouvoir en place. Donc à partir de là, nous organisons régulièrement des manifestations sur la voie publique, qui ont d'ailleurs été couvertes par des télévisions américaines, qui ont été reprises par des radios japonaises aussi. Et nous organisons aussi des comités locaux dans les différentes villes de France, afin d'essayer de rassembler tous les mécontentements et d'aboutir, nous faisons des cahiers de doléances aussi, et d'aboutir à un processus un peu comparable, nous ne sommes pas à la même époque, à celui de 1789, mais en s'inspirant un peu de la révolution orange ukrainienne, c'est-à-dire considérant qu'il n'y a plus de réforme possible et que tout est bloqué, il faut à ce moment-là que le peuple reprenne le pouvoir par lui-même, contre une noblesse de 10 000 personnes à peu près, qui gouverne l'ensemble de ce pays.
À bien des endroits dans le monde, M. Pain, je pense que le peuple devrait souvent reprendre, oui, effectivement, en main leur propre pays, parce que ça laisse quand même à désirer de ce côté-là. On nous demande aussi, via le live@rocket.com, qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne?
Ah, c'est un sujet difficile, parce que okay. Pour moi, j'ai toujours été européen de cœur,
oui.
Et donc partisan de la construction européenne. Mais il faut bien dire que nous avons un gros problème actuellement, c'est que cette construction a dévié de ses objectifs et qu'elle s'est transformée en une sorte de bureaucratie qui est à Bruxelles, et une bureaucratie qui assez curieusement reprend des thèses libérales sur le plan économique, ça n'est pas surprenant, mais qui reprend toutes les thèses immigrationnistes d'une manière tout à fait éhontée. L'un des gros lobbies pour favoriser l'immigration en Europe.
Oui.
Ce lobby se trouve à Bruxelles. Ah. C'est au sein de la Commission européenne. Et ça correspond, je pense, aussi peut-être aux intérêts de certains grands, disons, grandes affaires.
Aussi.
Et au phénomène, oui. Et au phénomène dont nous parlions tout à l'heure, de rabia, à savoir que les États européens et la Commission européenne, de manière à sécuriser les marchés et les approvisionnements en pétrole en provenance des pays arabes,
oui.
ont toujours eu tendance à faire profil extrêmement bas, hein, vis-à-vis de l'immigration et vis-à-vis de la politique arabe. Il faut voir que la politique arabe de la France, en particulier, est souvent reprise par la Commission de Bruxelles. Hein, il y a donc une interrogation aussi au niveau européen. On se pose la question de savoir où va cette Europe. Alors, il y a eu aussi, vous le savez, ça c'était un grand débat en France, mais qui, semble-t-il, n'est pas encore tranché, c'est le problème de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
Oui.
On fait
oui, c'est ça, parce que Monsieur Pince,
européen, on fait pas l'Europe pour l'ouvrir au monde entier,
c'est ça.
En particulier à des gens qui ne partagent ni notre géographie, ni notre culture, ni nos traditions. Enfin, ça n'a pas de sens. Or, la Commission européenne a été l'un des principaux avocats de l'entrée de la Turquie en Europe, et elle ne désespère pas toujours d'y parvenir en dépit des rebuffades des Turcs et de leur mauvaise foi évidente dans le fait qu'ils ne veulent pas reconnaître le génocide arménien, dans le fait qu'ils ne veulent pas donner accès aux navires de Chypre, aux ports turcs, etc. Enfin, ça, tout cela est absolument délirant. Et par conséquent, il y a en France, et ça globalement aussi bien à gauche qu'à droite, un très grand désenchantement vis-à-vis de la Commission européenne. On a l'impression que c'est une machine qui est là pour imposer des directives, mais qui ne protège absolument pas les populations.
Alors, dans le fond, est-ce qu'on fait barrière à la Turquie ou pas ?
Alors, là, quand même, un des éléments positifs qui se dessine au niveau de la présidentielle, c'est quand Nicolas Sarkozy, donc le candidat de l'UMP, à la différence de ses prédécesseurs, à la différence en particulier de Chirac, Nicolas Sarkozy est opposé à l'entrée de la Turquie en Europe. Alors, ça promet effectivement de beaux débats au sein de l'Union européenne, puisque vous le savez, l'Angleterre est très favorable à l'entrée de la Turquie, et vraisemblablement, et je pense d'ailleurs que quel que soit le futur président, la France y sera opposée, parce qu'il y a une très forte opposition du peuple français. Les sondages montrent que 60 à 65% des Français sont résolument opposés à l'entrée de la Turquie dans l'Europe.
Ok, ok. Je vais faire le tour tout de suite. Est-ce que vous voyez un avenir, dans le fond, par rapport à la France, par rapport à l'Europe? Je sais pas, est-ce qu'il y a quand même un grain de sel d'espoir dans tout ça?
Écoutez, vous savez, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis aux États-Unis et qui sont extrêmement pessimistes, non seulement sur la France,
oui.
mais sur l'Europe dans son ensemble. Hein. Je pense à Lewis, à l'historien Lewis, qui a dit que d'ici la fin du siècle, l'Europe ne serait plus qu'un appendice du Moyen-Orient. Je pense à un livre récent disant que l'Europe est perdue. Bon, en politique, vous savez, rien n'est irrémédiable. Il est certain que si le processus actuel se continuait, il n'y aurait plus aucun espoir. Mais je pense que non seulement en France, mais même au niveau des autres pays d'Europe, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne, il y a quand même maintenant de plus en plus une prise de conscience par rapport au danger que représente l'islamisme et donc, par voie de conséquence, l'immigration.
Mais quelles sont les mesures, les premières mesures concrètes, là, M. Pince, que la France pourrait entamer dès maintenant, justement pour contrer, enfin bloquer ce genre cette islamisation qui ne fait que grimper en Europe?
Bah écoutez, la première chose, ce serait d'expulser purement et simplement de France les fondamentalistes, les mouvements intégristes qui mènent des politiques ou des propos absolument contraires aux lois, qui recommandent la polygamie, qui recommandent la lapidation des femmes ou l'excision, etc. Il est bien certain que tous ces mouvements fondamentalistes formés d'étrangers n'ont rien à faire en France et en toute bonne logique devraient être expulsés. La deuxième mesure, ce sera évidemment de décréter l'immigration zéro. Je ne parle pas évidemment de l'immigration en provenance d'Ukraine, de Pologne, ou de, qui fait d'ailleurs partie de l'Union européenne, donc le problème ne se pose plus. Mais on devrait au moins bloquer complètement toute immigration en provenance des pays qui sont gangrénés par l'islamisme. Ça, je crois que c'est une mesure qui s'impose. Je pense qu'il faudrait aussi, d'ailleurs, aller beaucoup plus loin, c'est même interdire le tourisme en provenance de ces pays. Parce qu'il faut savoir qu'un des grands flux de l'immigration irrégulière vient du tourisme. Les gens rentrent avec un visa de 3 mois, et puis ensuite, ils se perdent dans la nature et ils restent sur place.
Ah, ça c'est
donc
étrange.
Ce sont pas les mesures qui manquent, si vous voulez, mais malheureusement, c'est la volonté.
Pour revenir sur la révolution bleue, Monsieur Pince, que pèse aujourd'hui cette organisation? Est-ce que vous avez un certain poids? Enfin, expliquez.
Pour le moment, nous développons d'une manière régulière avec des implantations en province. Nous développons nos manifestations. Nous espérons que de plus en plus de Français se rallieront à notre panache bleu ou à notre écharpe bleue,
oui,
puisque c'est l'écharpe bleue qui est notre signe de reconnaissance.
C'est vrai.
Cela étant, nous sommes évidemment complètement occultés par l'ensemble des médias, mais nous comptons sur Internet, sur les sites résistants avec lesquels nous avons des contacts permanents et amicaux, comme France Echo, que vous connaissez bien, comme Liberty Vox, que vous connaissez
bien.
Tout
à fait.
Nous sommes constamment en contact avec ces sites, et donc c'est par ce biais que nous essayons progressivement de gagner déjà la bataille des idées. Je vous le répète, en matière révolutionnaire, vous savez, qui pouvait dire quelques mois avant 1789 que la révolution allait se déclencher en France? Si des événements de nouveau, comme des émeutes de novembre, se reproduisaient, je suis convaincu personnellement qu'il y aurait à ce moment-là une levée en masse des Français qui dirait ça ne peut plus durer.
Mais est-ce que vous avez eu des ennuis avec l'État, avec la police, je sais pas, concernant votre révolution bleue?
Nous avons eu des ennuis. Non, ce n'est pas le mot.
Le mot juste.
Vous savez, bon, en France, il y a quand même les libertés de manifester sont encore, Dieu merci, garanties.
Par chance.
Les libertés de réunion aussi. Et donc, pour le moment, non. J'ajoute d'ailleurs que il faut le savoir aussi, c'est qu'au niveau des forces de l'ordre, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, beaucoup de fonctionnaires sont excédés par la situation actuelle. Et au fond, se rendre compte qu'on ne peut plus continuer comme cela.
Effectivement. Mais il est clair que maintenant, une nouvelle alliance est née, M. Pince, c'est-à-dire vous et moi, Rockkick.com et Free World Academy. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de...
Plaisir.
Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble et oui, de pouvoir botter des culs si de manière sympathique.
Tout à fait.
Monsieur Pince,
ce sera une très bonne nouvelle de pouvoir nous appuyer sur nos amis canadiens. Nous avons déjà aussi des amis à Vancouver, par exemple.
C'est vrai?
Qui suivent la Révolution Bleue, qui ont formé d'ailleurs un café politique de la Révolution Bleue à Vancouver. Et nous avons aussi des amis en Californie, qui sont des Français émigrés là-bas, en Californie. Et donc, il y a des gens qui suivent aux États-Unis et au Canada la Révolution Bleue, et nous comptons beaucoup sur l'appui de nos frères.
Monsieur Pince,
parce que nous avons bien besoin de leur appui. Nous avons bien besoin de leur appui.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vous pose la question. Par exemple, les gens que vous me parlez à Vancouver ou en Californie, si je vous renvoie un courriel, est-ce qu'il serait possible de pouvoir communiquer avec ces gens?
Ah, tout à fait. Vous m'envoyez un courriel, je vous mets en rapport aussitôt avec eux.
Alors, c'est ça. Je ne sais pas s'ils vont être à l'aise d'avoir une entrevue téléphonique avec nous, mais c'est simple. Le principe de notre station de radio, c'est on parle à tout le monde sur la planète. La planète est petite.
Ah ben, écoutez, je vous mettrai en rapport avec eux. Envoyez-moi un email et je vous renvoie et je vous mets tout de suite en rapport avec eux.
Peut-être une dernière question, si vous me le permettez. Ici, on nous demande, a-t-il été approché? Est-ce que vous avez été approché, dans le fond, par des partis politiques, peut-être récupérés, je sais pas?
Non, pas du tout, pas du tout. Et on ne souhaite avoir aucun rapport avec les partis politiques actuels, dans la mesure où nous considérons qu'ils sont tous compromis, qu'ils sont tous responsables de la faillite actuelle. Donc, aucun rapport, aucun contact avec les partis politiques, quels qu'ils soient.
Monsieur Pince, on se reparle dans 15 jours. C'est d'une certaine façon le procédé que nous aurons à l'avenir, si on peut le répéter. Ça serait vraiment fantastique.
Certainement, certainement. C'est avec plaisir.
Merci, Monsieur Pince. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci beaucoup et bonne soirée à vous et toutes mes amitiés à nos amis canadiens.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était Gérard Pince que vous venez tout justement d'entendre. Chris, t'as-tu aimé ça?
On a eu également... Ah oui.
C'était fou,
et
hein?
On a eu également un superbe message de la part de l'auditeur ici.
Est-ce que tu pourrais le lire?
Bien sûr,
vraiment
bien sûr, avec plaisir. Félicitations, monsieur Pince, qui nous donne de l'espoir et qui, avec la Révolution bleue, se démène beaucoup pour faire du bon travail.
Oui.
Je peux en témoigner. Il y a une extrême droite pro-arabe, comme l'avait relevé Guillaume Fay. Le FN refuse de parler d'islamisation explicitement. L'antisémitisme,
ça fait longtemps, on roule depuis 4 heures là.
L'antisémitisme, c'est l'erreur que fait Alain Soral dans son abécédaire de la bêtise. Il disait pourtant vrai, mais voilà maintenant, il a tout fait pour sur l'islam qu'il considère comme une voie de sagesse, mais ce n'est pas mon cas. Il se prétend national-républicain et bien donc faisant de certains citoyens, de vrais citoyens, et non pas comme Martine Aubry qui se fait une joie de voir des imams maintenir la paix civile. J'aimerais savoir ce que Monsieur Pince de Alain Soral. Ce que pense Monsieur Pince.
Il manque des mots, lui-là.
Alain Soral,
il manque des mots
malheureusement.
Dans ses phrases, mais c'est correct.
Moi, quand je l'ai découvert, il me semblait vraiment incorrect. J'avais lu son texte sur Dieu donné en 2002, c'était criant de vérité. Mais là, il s'est fait agresser par des intégristes et s'égare. Il le reconnaît à demi-mot dans son dernier livre, disant qu'il n'emploie pas forcément la bonne forme pour s'exprimer. Félicitations à vous, Ismaël et Gérard, pour cette émission magnifique.
Ben, merci beaucoup.
Super.
Je demande pas, ben, en tout cas, je le prends, mais je vais rester modeste. Je fais ce job de radio parce que j'adore ça, j'aime ça. Christian fait la même chose parce qu'il aime ça. C'est un fighter, on aime combattre. On est des gens, je suis un gars passionné, on est des gens passionnés dans cette équipe-là. La seule chose qu'on vous demande, c'est de crier rockkick.com sur la planète. Bienvenue sur la planète rockkick.com. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis heureux que ça vous ait fait plaisir d'entendre Gérard Pince, qu'on va réentendre encore, hein, comme vous m'avez je lui ai mentionné tout à l'heure, à chaque 15 jours, à chaque 2 semaines, dans le fond, en réalité, on aura l'occasion le mardi, 17h, pour les Français, bien sûr, et aussi pour les Québécois qui désirent apprendre autre chose que, justement, Guy Richer, par exemple, s'est mis de la coke dans le nez. Ça, c'est banal, ça. On aime juste taper dessus pour taper dessus parce que c'est un faible, c'est un être faible, un loser, tu sais, parce qu'il fait partie d'une équipe de losers qui s'appelle le Bloc les Québécois. Mais ça, c'est des histoires locales, c'est hyper inutile. Mais c'est le fun de parler du côté international. Pourquoi? Parce que ça vous touche directement, bien plus que vous pouvez le croire. Et Gérard Pince fait partie de ces gens qui sont intéressants à entendre et vraiment à écouter, point, sans poser de questions des fois aussi. Même, je me retenais parce que j'en venais pas, Christian. J'étais là, tabarnouche! Hein? Une masse, merde!
Oui.
Une masse,
une
le gars! Boum! Tu sais, c'était vraiment ça. Ça faisait mal aux dents, là. Écoute, là, j'ai encore le... Oh! Ça saignait!
Oui.
C'était la saignée, là!
La saignée! Là, on a beaucoup de messages ici.
Oui, oui.
On confirme ici, c'était super, bravo. Avant, il y avait des national-socialistes. Aujourd'hui, il y a des national-soralistes. C'est clair, Gérard Prince est un membre de plus de la planète Rockkick.
Et voilà!
Ça, on en est vraiment, mais vraiment fiers. Oh. Merci l'équipe de Rockkick. La Belgique aussi compte sur les résistants français.
Parce que y a une chose est sûre, ça, lis pas ça, s'il te plaît, je l'ai pas passé justement pour en tout cas, c'était comme hors propos et dangereux. Mais non, il est clair que je savais en allant chercher ce gars-là, ça faisait plusieurs fois qu'on me disait des gars qui travaillent au sein du Liberty Vox, ils me disaient va le chercher, va faire une entrevue avec lui, tu vas voir, tu regretteras pas ce mal. Et effectivement, j'aurais dû me grouiller le cul plus rapidement encore, parce que franchement, c'était délectable à chaque mot, c'était délicieux à l'oreille, ça coulait. Au même titre que Balois. Et je m'ennuie vraiment pas de l'air que on avait Maurice Gédantec qui était là, qui s'est fait remplacer, mais en claquant des doigts, Gérard Pince, ou encore Madame Balois. C'est fantastique de les entendre. C'est des gens qui sont riches en culture, qui sont passionnés, et entre passionnés, ça, le courant passe. Et c'est ce que vous avez entendu sur le www.rockick.com, votre station numéro 1. Et en aucun temps, on vous fera croire qu'on est écouté en Belgique quand c'est pas le cas. OK? Comme un certain Yves Landry, justement, de Radio Pirate, qui dit... Alors, on a Melinda qui nous écoute de France et qui est psychiatre. Est-ce que je mentionne que je sais pas, moi, Madame Résistante est médecin pédiatre ou quelque chose comme ça? Je mentionne tout ça, moi, de la part des auditeurs. On parle aux auditeurs, vous êtes des auditeurs, vous aimez le show, je mentionne vos nicknames, ça s'arrête là, vous voulez votre vrai prénom et nom, je ne vous chierai pas de marde, OK? Clair,
ça voulait,
net.
Ça voulait simplement dire avec le commentaire d'Yves Landry que c'était la première fois qu'il y avait des Français quasiment à l'écoute.
Il n'y en a pas.
C'est
un mensonge de radio pirate tout croche. Nous autres, on travaille fort, là. Bordel. Puis à soi de notre front, Christian. Vrai ou faux?
Oui, vrai. Mais là, regarde, voyez le résultat. Ça pop, OK? Ici, on dit très bonne entrevue. Ismaël se dribouille très bien. Mis à part Ismaël qui a confondu premier ministre et président.
Mais c'est vrai. Ouais. Je me suis... Ben, il y a personne qui a eu... En tout cas, il y a...
Sujet numéro 14 qui est français, qu'il est chômeur.
Ah, t'es chômeur. Ah non, on a sujet numéro 14 qui est chômeur, là, qui nous écoute de France. Ah,
OK. Bienvenue, sujet numéro 14. C'est pourtant simple, tu sais. Oui, il faut rester humble, sinon Montréal va s'envoler comme une certaine banane au Texas. Incroyable.
Alors, une banane, pourquoi pas, hein, César Sazé? Hein? Une banane? Une banane.
Une banane.
Et pourquoi pas?
Il est difficile à expliquer. Il est très difficile. Ismaël a été excellent. Très bonne intervention. Bravo. Et également, il ne reste qu'à interviewer Claude Reichmann.
Je vais le passer.
On essaie de le faire passer aussi, Claude Reichmann. Ce serait vraiment...
Ne vous inquiétez pas. Merci, madame super résistante. Je prends votre compliment à bras ouverts. Merci aussi à Super Résistant qui est là, je veux pas rendre jaloux quand je prends à bras ouverts.
Il y a Théo qui est belge.
Je vais prendre Madame Super Résistant aussi à bras ouverts. On va le rendre jaloux aussi, Super Résistant. OK. Oui, Théo, qu'est-ce qu'elle dit ici?
il y aura bien des points à développer avec lui. Il est une véritable source.
Il est une source, même Bergie. Hey, Bergie, Québécois, là. OK, 100% Québécois, frogs. 100% frogs.
Entre deux, on pourra prendre Alain Juppé.
Oh non, Pierre, s'il vous plaît, pas Alain Juppé, pas Juppé, ouais. Non.
En tout cas, il y a beaucoup de Belges qui nous écoutaient aussi, qui nous envoyaient des messages via le love@rocket.com. Ici, c'est clair, Dantec est une immense perte, mais bon, il n'est pas le seul.
Voilà. J'ai discuté avec un gars qui est très sage et que je respecte énormément. Et qui m'a dit ceci, et que j'avais oublié ça. C'était loin dans mes pensées, Christian. Je discutais hier en après-midi, pour lui, c'est en soirée, quelque part en Europe, et il m'a dit, personne n'est irremplaçable. Même pas Dantec. OK?
Voilà.
Même moi. Je sais pas, un jour, je vais peut-être laisser place à un autre animateur encore meilleur que moi. Ça se peut. Ça peut arriver, Christian.
Oui.
Ça peut arriver sûr. Que je laisse ma place à un animateur qui est 100 fois meilleur que moi.
Mais.
Je suis capable de reconnaître la force, la méthodologie d'un individu. S'il est meilleur que moi, je vais aller le chercher puis je vais le prendre à ma place.
Mais est-ce que notre but pour nous, c'est de crever avec notre passion? Crever, ça peut
J'aimerais mourir avec. Mourir J'aimerais bien avec. Mourir avec.
Moi aussi.
Sauf que si à un certain moment donné, je n'ai plus ma place, sur la radio du 3WRockick.com. Je laisserai, je sais pas moi, l'animation à Bergie, par exemple. Ça pourrait peut-être donner une formule aussi gagnante. Je sais pas.
Si on dit les cimetières sont pleins de gens irremplaçables.
Voilà. Oui. Voilà. Alors,
la métaphore est superbe,
ça. Alors, M. Gérard Pince, que vous avez entendu, va revenir. Et ce qu'il a fait tout à l'heure a facilement, mais facilement effacé ce que j'ai déjà entendu de la bouche d'un certain écrivain. Qui cogne lui aussi. Oh. Mais Gérard Pince, il démolit, là.
On t'envoie une belle fleur ici. Meilleur qu'Ismaël, c'est peu probable pour l'instant.
Oh, c'est fin, là. Arrêtez, je vais rougir.
Ici, on dit, tu arrives à trouver Philippe de Villiers, tu deviens la meilleure radio-résistance du monde.
Oh boy.
Mais ce serait plaisant.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on aimerait parler à Philippe de Villiers? Mettez-en. La question maintenant, c'est de savoir, Monsieur de Villiers, on veut discuter avec vous, causez là.
Monsieur de Villiers, Philippe de Villiers, je vous parle au nom de toute mon équipe. Wake up le matin, ok. L'après-midi pour vous toujours. J'aime bien respecter le décalage horaire. Je vous lance un appel. Je ne sais pas si ça va se rendre à vos oreilles. Si vous allez avoir le culot de venir sur mes ondes, discutez avec moi. Même si vous gagnez, même si vous perdez les élections, même si vous n'avez aucune chance. D'accord?
Non.
Juste histoire de discuter de votre programme, ce que vous aviez à offrir réellement aux Français. Parce que je vous ferai remarquer que sur le 3WRockick.com, il y a un sondage en ce moment qui vous appartient. Et vous arrivez bon deuxième à 26,5%. Le Pen, 51. Malheureusement, Le Pen gagnerait. Mais Philippe de Villiers gagnerait peut-être au deuxième tour, je ne sais pas. Peu importe. Peu probable. Au nombre de Français, oubliez jamais ça, qui écoutent notre station de radio, faites une recherche sur les nombreux blogs français et vous allez voir que Rockick.com
est omniprésent.
Allez écouter ça, quelqu'un. Puis venez m'en parler, s'il vous plaît. Il est présentement